Théologie biblique, cours du Père Philippe, Saint-Joseph, le 22 novembre 84.
Nous allons continuer cette lecture de l'Exode pour essayer de mieux saisir ce grand mystère de la révélation de la miséricorde de Dieu. Je crois qu'en définitive, c'est bien cela que nous allons découvrir progressivement dans l'Exode. Justice et miséricorde. Et découvrir dans cette justice et cette miséricorde comment Dieu se choisit un médiateur. Parce que la vocation de Moïse, c'est la vocation du médiateur. Alors, c'est intéressant de voir que la médiation s'enracine dans le mystère de la miséricorde. Saint Thomas a cette petite remarque à propos du gouvernement divin, en disant que plus Dieu veut faire miséricorde, plus Dieu multiplie ses instruments et donc ses médiateurs. C'est du côté de la miséricorde que nous pouvons comprendre le sens de la médiation, et le rôle de la médiation. Et je crois que l'Exode est très nettement le livre qui nous fait entrer dans ce point de vue de la médiation. Alors, ce n'est pas n'importe quelle médiation. Ce serait intéressant à ce point de vue-là de regarder la différence entre l'Exode qui nous met en présence du médiateur du côté de la législation et l'Épître aux Hébreux, qui nous met en présence du médiateur au niveau sacerdotal et au niveau du Fils bien-aimé. C'est pour saisir ce que représente la médiation dans la lumière de la miséricorde et saisir cette médiation très particulière, qui est une médiation sacerdotale et d'un sacerdoce du Fils bien-aimé. Il est évident que Moïse nous aide à comprendre Jésus comme médiateur et Moïse nous aide à comprendre Marie comme médiatrice. Vous pouvez vous servir de Moïse au point de vue, si vous voulez, d'ordre de la, comme annonce, comme préfiguration. Moïse est préfiguratif à la fois de Marie et du Christ. Sous deux aspects différents, ce qui arrive très souvent dans l'Ancienne Alliance, où on est du côté de la disposition. Or, quand on est du côté de la disposition, ce n'est pas encore précis. Les choses ne sont pas encore précisées. Et donc, elles vont pouvoir se préciser de façon différente, puisque la disposition se prend toujours du côté de l'imperfection et du côté de la matière. Alors, nous avions déjà vu, et j'avais insisté là-dessus, parce que je crois que c'est quand même très important de voir que Moïse est présenté d'abord comme un homme qui a un sens très aigu de la justice. Puis, nous entrons dans cette vision de Moïse face à Dieu, la vocation de Moïse, l'appel de Moïse. Vous voyez bien les deux choses très très différentes. La naissance de Moïse et Moïse sauvé des eaux. C'est le nom de Moïse, sauvé des eaux. Et Moïse qui va être appelé d'une façon spéciale par Dieu. À ce point de vue-là, la vocation de Moïse a quelque chose de tout à fait particulier. Ce n'est pas la vocation d'Abraham. La vocation d'Abraham, c'est la vocation du Père. Le Père, je ne dis pas que c'est l'inverse du médiateur, mais le Père, ce n'est pas du tout la vocation de la médiation. C'est la vocation de la source de la miséricorde. C'est ça la paternité. Tandis qu'au contraire, le point de vue Moïse, c'est le médiateur, c'est le législateur. Et c'est pour ça que la vocation de Moïse est si différente de la vocation d'Abraham. Là encore, c'est important d'essayer de découvrir cette théologie de la vocation à travers ces différentes personnes qui sont appelées par Dieu. Alors, je vous avais rappelé la dernière fois combien ce chapitre 3 de l'Exode est important, parce qu'il nous fait découvrir le premier moment de la miséricorde. Pas le premier, si vous voulez, parce que le premier, c'est lorsque il nous est montré que Dieu répond au cri de l'enfant dans le désert. Au cri du petit Ismaël, quand sa mère Agar ne peut plus supporter le cri de l'enfant. C'est quand la mère ne peut plus supporter le cri de l'enfant que la miséricorde de Dieu apparaît. C'est du reste très beau, ça. Pour montrer que c'est une miséricorde super maternelle. Quand la mère est lasse, Dieu ne l'est pas. Quand une mère n'en peut plus, parce que l'enfant, c'est trop lourd à porter, les cris de l'enfant sont insupportables pour Agar, et Dieu apparaît à ce moment-là. Dieu, du moins, entend à ce moment-là. Ce dépassement. Ici, nous avons quelque chose de différent, mais en même temps quelque chose de très semblable. Dieu entend les cris de ce peuple qui est asservi à la tyrannie du Pharaon. Il avait dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu sa clameur devant ses surveillants. Oui, je connais ses douleurs. Dieu a vu la misère de son peuple. Dieu s'est souvenu de son peuple, alors que son peuple a l'air d'avoir oublié son Dieu. J'ai entendu ses clameurs devant ses surveillants. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste. Alors nous retrouvons, si vous voulez, quelque chose d'analogue avec Abraham, mais vous voyez tout de suite toute la différence. C'est que Abraham aussi doit aller vers un pays fertile, toujours, hein. Les grands symbolismes du royaume de Dieu. La terre de Canaan, et ici vous retrouvez quelque chose de semblable, hein. C'est encore la terre des Cananéens. Donc, c'est le symbolisme de ce mystère de libération. Dieu libère pour qu'il puisse aller vers cette terre, les libérer du joug du Pharaon. La différence, c'est que Abraham va vers cette terre pour la peupler de ceux qui seront sa descendance. C'est vraiment le père, source de toute fécondité. Tandis qu'ici, au contraire, Moïse, c'est celui qui sera appelé à organiser le peuple de Dieu, à donner au peuple de Dieu sa structure propre, sa structure religieuse. C'est aussi très intéressant, ça on essaiera de comprendre, parce que, je vous ai dit, il faut avec l'Exode découvrir le point de vue de la politique, comme nous le faisons du côté de Platon et du côté d'Aristote. C'est intéressant de faire du côté biblique. C'est intéressant de comprendre ce qu'est la communauté politique telle qu'elle est vue. Jusque-là, on ne l'a pas vue. On a vu que la famille. La Genèse, c'est la famille. Une famille nombreuse, 12 enfants, une famille nombreuse, très nombreuse, mais c'est quand même la famille. Tandis qu'à partir de Moïse, on peut dire que c'est le peuple qui va être constitué. Il faut toujours prendre les deux analogies. Quand on ne prend qu'une seule analogie, il y a des tas de choses qu'on ne comprend plus dans l'Église. Il faut comprendre que l'analogie du peuple de Dieu mise en pleine lumière dans le Concile Vatican II n'exclut pas l'analogie de la famille. Il y a les deux choses. Oui, parce que la question du peuple, c'est tout de suite la loi. C'est du reste très curieux, à un moment où on est si peu moral qu'on insiste énormément sur le peuple. Bon, alors que ça devrait être la famille. Mais vous comprenez bien que la place de Marie est toute différente dans la famille que dans le peuple. Vous voyez tout de suite, dès le début, Moïse est appelé à être un législateur. Alors son épouse, elle est mise un peu de côté. Hein. Elle est choisie parmi les six, on ne sait pas très bien laquelle, c'est très très bien, mais on ne voit pas très bien le choix de Moïse. Il y en avait six, il y en a une parmi les six, il y en a une qui est bien, qui sera l'épouse. Mais on n'a pas l'impression, hein, après le choix de Jacob, c'est assez plat. Le choix de Moïse, ça ne veut pas dire que Moïse ne s'est pas aimé, mais c'est pas ça dont on met en lumière. C'est très curieux. On a l'impression que Moïse doit se marier pour avoir un beau-père. Oui, parce que le beau-père va intervenir quand il sera dans le désert. Le beau-père sera là pour aider et pour poser des intermédiaires. Alors, voyez le point de vue de la miséricorde du Père. Hein, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Il faut souligner ces cascades qui nous font entrer dans la miséricorde. La miséricorde implique d'avoir une connaissance affective du mal de l'autre et que ce mal de l'autre, nous le considérons comme notre mal et nous faisons tout pour délivrer celui qui est accablé. Moïse dit à Dieu, « Voici que je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent, quel est son nom ?» Ah, c'est bien le législateur, ça. Il a été éduqué à la manière égyptienne. C'est pas du tout Abraham. Quelle différence. Abraham obéit. Abraham, il obéit, il sait très bien prier en montrant les choses, tandis qu'ici, il réclame un nom. Si le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent quel est son nom, que leur dirais-je ? On voit très bien la prudence du législateur. Le législateur, c'est celui qui a le sens de la justice, on l'a montré, et ici, on nous montre le sens de la prudence. C'est absolument capital. Et le sens de la prudence, il est ici. Vous voyez, il ne se précipite pas. C'est l'homme prudent. On lui donne une mission, mais c'est très bien cette mission. Je ne peux la quitter que si j'ai un mandat et que si je peux m'appuyer sur une autorité. Alors, quel est son nom ? Que leur dirais-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Il dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'envoyé vers vous. » Alors, je vous avais dit que pour bien interpréter « Je suis qui je suis », selon la double interprétation, voyons l'interprétation de Yahvé lui-même. L'interprétation de Dieu lui-même. Or, l'interprétation de Dieu lui-même, il nous montre comment Moïse doit utiliser le nom. C'est admirable, ça. Oui. Il se présente, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Alors, je crois qu'une fois qu'on a compris ça, on voit que c'est Yahvé lui-même, que c'est Dieu lui-même qui montre à Moïse comment il doit employer « Je suis qui je suis ». Et donc, ça doit s'employer comme une révélation de la personne de Dieu, dans son universalité la plus grande. Il parle au Pharaon, et ce sera pour le Pharaon, l'universalité la plus grande. Voyez la différence, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça c'est pour la famille. Il y a le Dieu de la famille, et il y a le Dieu universel. Alors, c'est « Je suis ». Ce sera aussi au cœur du peuple d'Israël. Mais c'est d'abord, ne l'oublions pas, Moïse demande d'abord un nom pour les autres. Et il est envoyé au Pharaon. Et donc, c'est un nom qui, de fait, dépasse la révélation. Oui, la révélation particulière pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que je crois que toute la grande tradition a raison. Dieu se nomme en se servant de ce qu'il y a de plus commun. C'est le raisonnement que prend saint Thomas. Il a un très bel article pour montrer que le nom de Dieu, je suis, c'est le nom le plus commun et le nom le plus propre. Mais c'est le nom le plus commun et le nom le plus propre au niveau du logos, au niveau de l'intelligibilité que je peux avoir de Dieu. La plus grande intelligibilité que je peux avoir de Dieu, c'est lorsque Dieu dit « je suis ». Alors là, c'est ce qu'il y a de plus général. À la différence, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est les deux extrêmes. Et c'est très beau, parce que ça montre la transcendance absolue de Dieu. Dieu peut se nommer en prenant le nom le plus commun. Je suis. Tous nous sommes. Je suis. Mais nous ne le sommes pas à la manière de Dieu. Nous sommes participés. Mais notre exister, c'est notre être. C'est ce qu'il y a en nous de plus commun. Et Dieu prend le nom le plus commun pour se présenter. Alors ça c'est, j'allais dire, c'est le chic de Dieu. C'est ça, Dieu peut faire ça. Ceux qui sont d'une noblesse intermédiaire doivent avoir beaucoup d'ornementation. Ceux qui sont de la noblesse suprême peuvent avoir la suprême simplicité. Je suis. Mais c'est bouleversant, hein, que Dieu se nomme comme ça. Que Dieu prenne le verbe être, qui est de fait ce qui est le plus commun pour se nommer. Et je crois que c'est très important, surtout aujourd'hui, où on ne veut plus attribuer à Dieu l'exister. Je suis, puisque Dieu sans l'être. Alors on supprime cela. Et pourquoi on le supprime? C'est parce que justement, on ne comprend pas assez que le nom de Dieu donné à toute l'humanité, c'est « je suis ». C'est le nom donné à toute l'humanité, c'est-à-dire donné à l'intelligence de l'homme. Puisque l'intelligence de l'homme est faite pour atteindre Dieu. Puisque l'intelligence de l'homme est capable d'affirmer l'existence de Dieu. C'est merveilleux que Dieu donne comme nom pour le Pharaon, je suis. Et pour son peuple, sous le joug du Pharaon, ce n'est plus la famille. Vous voyez, et je crois que là, vous avez tout de suite la grande distinction entre le point de vue de la famille, où Dieu se lie au Père, et lorsqu'il s'agit justement de cet éclatement et de ce dépassement, Dieu prend ce que notre intelligence peut le mieux saisir. Ce serait, pour tous ceux qui n'acceptent pas une métaphysique, vous voyez, de l'être, ce serait une démonstration merveilleuse qu'il y a là une confirmation, ce que les pères de l'Église ont vu et ont souligné. Ils ont même dit des choses très étonnantes là-dessus, n'est-ce pas ? Les Grecs, en parlant de l'être, connaissaient cette révélation. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé de l'être. Pour essayer de comprendre le lien qu'il y avait entre les Grecs et la révélation. Vous voyez, prenez un raisonnement juste à l'inverse de notre monde d'aujourd'hui. Le raisonnement de notre monde d'aujourd'hui, c'est de bien séparer tout ce qui est grec de tout ce qui est sémite. Bien séparer la Grèce de cette révélation qui est faite au peuple d'Israël. Alors que les pères de l'Église faisaient juste l'inverse. Il montrait la grande harmonie qui existe entre les deux. Parce qu'il regardait la vérité. Aujourd'hui, on ne regarde plus la vérité, alors on oppose dialectiquement. Et cette opposition, elle vient de Hegel. Il ne faut pas l'oublier. C'est Hegel qui oppose le premier, le grec, l'homme libre, avec Abraham, le croyant, qui n'est plus un homme libre. L'opposition entre les deux. Alors évidemment, Hegel est pour le grec, et les modernes sont pour Abraham. C'est très curieux, les modernes théologiens sont pour Abraham, et ne veulent plus que le point de vue grec intervienne dans la révélation. Mais c'est un très vieux problème, ça. C'est un problème très intéressant, du reste, de voir comment Dieu a voulu qu'il y ait des liens. Moïse, formé à la cour du Pharaon, entre l'Égypte et la Grèce, il y a des liens très profonds. Et donc là, nous voyons bien qu'il y a quand même quelque chose de commun. Et c'est pour ça que les pères de l'Église, quand ils voulaient manifester un peu plus ce quelque chose de commun, tomber peut-être dans des choses qui ne sont pas exactes historiquement, mais c'est peut-être beaucoup plus profond qu'on ne le pense. C'est une naïveté très profonde de voir qu'il y a quelque chose de commun dans cette recherche de la vérité. Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Il dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis. » Alors, « Je suis », c'est Dieu qui vraiment se présente. Hein. Ça, on ne peut pas nier. Parce que « Je suis qui je suis », ça pourrait avoir l'impression de se cacher. Mais quand il dit uniquement « Je suis », il se présente. Et quand nous voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus qui dit « Je suis », alors vous voyez toute la force que ça prend. « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom à jamais. » C'est mon appellation de génération en génération. Donc, ces deux noms ne s'excluent pas et se compénètrent. Et par rapport aux enfants d'Israël, il reprend le nom qui est le nom de la famille, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur, Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je n'ai pas manqué de vous visiter. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la misère d'Égypte vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Périsites, des Hivites et des Jébusiens, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ton appel. Et tu te rendras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Vous lui direz, Yahvé, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Dorénavant, ce sera Yahvé. Hein, on comprend très bien, c'est je suis. Alors, c'est le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Maintenant donc, puissions-nous aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé notre Dieu. Je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'est contraint par une main forte. J'avancerai donc ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de merveilles que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous renverra. Alors, on voit très bien cette annonce prophétique qui est faite pour rassurer Moïse, pour l'aider, parce que Dieu sait que c'est pas très drôle ce que Dieu lui demande de faire. Alors, il demande aux anciens de l'aider pour que Moïse ait le courage d'aller jusqu'au bout. Je ferai que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui réside dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous les mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. Un bon petit conseil hein, que Dieu donne. Hein. C'est extraordinaire, ça. C'est merveilleux de voir comment Dieu veut que le peuple d'Israël se fasse à lui-même sa propre justice par rapport au Pharaon. Pendant des années et des années, il a été opprimé. Il a vécu une injustice. Vous voyez, pour la théologie de la libération, ça donne des petits arguments, ça. Très étonnant. Il faut essayer de comprendre. Hein, il faut essayer de comprendre. Parce que c'est quand même la parole de Dieu. Dieu veut que le peuple d'Israël, quittant l'Égypte, ne quitte pas l'Égypte des mains vides. Et vous remarquez que c'est le rôle des femmes. Hein, de demander aux Égyptiens, oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de petite complicité qui est là, chaque femme demandera à sa voisine, à celle qui réside dans sa maison, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous les mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez l'Égypte. Oui, la miséricorde plénière de Dieu, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. C'est la miséricorde plénière de Dieu qui met sa toute puissance au service de sa miséricorde. Et ça va jusqu'à faire que le peuple d'Israël doit avoir le courage de pouvoir se faire à lui-même sa propre justice. Parce qu'il était sous un joug inique. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. On a commis vis-à-vis de lui de grandes injustices, et Dieu lui demande de se faire à lui-même sa propre justice, à l'intérieur de sa miséricorde. Dieu sera là. Moïse répondit et dit, « Mais ils ne me croiront pas et n'écouteront pas mon appel, car ils diront, « Yahvé ne t'est pas apparu. » Yahvé lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, un bâton. Yahvé dit, jette-le à terre. Il le jeta à terre. Et le bâton devint un serpent. Moïse s'enfuit de devant lui. Moïse n'a pas peur devant l'Égyptien, mais il a peur devant le serpent. Hein, c'est joli ce rapport de Moïse et du serpent. Yahvé dit à Moïse, avance ta main et prends-le par la queue. Il avança la main, le saisit et devint un bâton dans sa main. De la sorte, ils croiront que Yahvé était apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous voyez que ça se complique les apparitions. Hein, c'est les apparitions se compliquent avec un charisme, la naissance du charisme. Moïse est un homme charismatique. Donc demandez aux charismatiques de faire le même geste. Pour voir s'ils sont des vrais charismatiques. De voir si le bâton se change en serpent et si le serpent se change en bâton. C'est ce que Dieu donne pour montrer s'il est en un véritable envoyé de Dieu. C'est étonnant. C'est très très fort. Hein. La mission et le charisme, le signe, qui est lié à la mission. Encore une fois, ce n'était pas donné du tout à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est donné au législateur. Le législateur, vous voyez, n'a pas la même intimité d'amour. Le législateur, c'est un lien par l'intelligence. Et alors, parce que c'est un lien par l'intelligence, il a besoin de confirmer son autorité par un signe. L'amour n'a pas besoin de signe. Et l'intelligence en a besoin. Alors on voit bien le point de vue du législateur à la différence d'Abraham qui justement c'est le père. Et au fond c'est toute la différence. Marie, elle n'a pas besoin de signes. Zacharie en a besoin. Parce qu'il est prêtre. Il est législateur. Il n'est pas celui qui aime pleinement. C'est très très beau de voir comment Dieu vient confirmer l'autorité de Moïse en lui donnant ce signe. De sorte, ils croiront que Yahvé était apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De sorte, ils croiront que Yahvé était apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yahvé lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein. Et quand il la retira, voici que sa main était lépreuse, couverte de neige. Yahvé dit, « Ramène ta main vers ton sein. » Il ramena sa main vers son sein. Et quand il l'en retira, voici qu'elle était redevenue comme le reste de sa chair. S'il ne te croit pas et n'écoute pas l'appel du premier signe, ils croiront à l'appel du second. Et s'il ne croit pas même à ces deux signes et ne t'écoute pas et n'écoute pas ton appel, tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras puisée du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Troisième signe. Moïse dit à Yahvé, de grâce, Seigneur. Oui, c'est bien. Hein? Il ne se sert pas immédiatement des charismes. De grâce, Seigneur. Je ne suis pas un homme à parole. Et ce n'est pas d'hier. Ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. Le repliement sur lui, il a la frousse. Aller devant le pharaon, aller devant le peuple d'Israël, pas drôle du tout. La mission que Dieu lui donne n'est pas drôle du tout. Il veut s'évader. De grâce, Seigneur, je ne suis pas un homme à parole. Il bégaye. Il a la langue pesante. Et la bouche pesante. Il avait lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? Ou qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahvé? Maintenant donc, va, et moi je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Vous voyez comment Dieu réconforte son instrument. Moïse manque de confiance. Il veut une trop grande prudence. sera peut-être, voyez, la chose que Dieu va purifier le plus dans Moïse. C'est la prudence. Après, sa prudence, c'est la qualité dominante d'un médiateur et d'un législateur. Donc Dieu veut lui montrer qu'étant l'auteur de la bouche, il peut immédiatement lui délier la langue. Moïse dit: « De grâce, Seigneur, envoie donc qui tu voudras envoyer. » La colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse et il dit: « N'y a-t-il pas Aaron ton frère, le Lévite ? Je sais qu'il saura parler, lui. Le voici justement qui sort à ta rencontre, et quand tu le verras, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Ainsi, il sera pour toi une bouche, et toi, tu seras pour lui un Dieu. Quant à ce bâton, tu le prendras dans ta main, c'est par lui que tu feras les signes. » Alors, il y a ce jumelage qui est très très curieux. Vous voyez comment Moïse recule, il n'a pas envie d'y aller. Dieu n'est pas content. Mais Dieu ne boude pas. Moïse refuse, Dieu trouve un stratagème. Il va y avoir Aaron, son frère, le Lévite, qui va apparaître. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ce jumelage d'instruments. Abraham, je veux dire Moïse, est l'instrument de Dieu et Aaron sera l'instrument de Moïse. Et c'est pour ça que Moïse sera comme un dieu pour Aaron et Aaron sera la bouche de Moïse. C'est très extraordinaire ça et c'est très intéressant au point de vue de l'économie divine. C'est très intéressant pour découvrir ce que je vous disais tout à l'heure, plus la miséricorde de Dieu va aller loin, plus Dieu multiplie ses instruments. Et Dieu multiplie ici deux instruments qui seront complémentaires. Deux instruments qui peuvent être complémentaires et qui le seront. Moïse s'en alla. Retourna vers Jéricho. Son beau-père retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit: laisse-moi aller, je te prie, et retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: va en paix. Yahvé dit à Moïse à Madian: va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous les hommes qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Yahvé dit à Moïse: en t'en allant pour retourner en Égypte, considère tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant Pharaon. Pour moi, je ferai s'obstiner son cœur. Et il s'en retournera, il ne renverra pas le peuple. Tu diras à Pharaon: ainsi parle Yahvé. Israël est mon fils, premier-né. Je t'ai dit: renvoie mon fils pour qu'il me serve. et tu as refusé de le renvoyer. Eh bien, moi, je vais tuer ton premier-né, ton fils premier-né. Voyez, alors ici, c'est un récit. On voit très bien, c'est très curieux du reste, en l'occurrence, tout l'Exode, vous voyez, il y a toute une série de récits qui sont les uns avec les autres, juxtaposés, et donc pour les exégètes, c'est du pain béni, n'est-ce pas, pour essayer de découvrir les sources différentes. Et ici, c'est très clair, on voit très bien, le récit n'est pas continu. Il y a des récits très, très brefs, très, et puis qui anticipent, on va voir du reste, on le voit constamment, alors, il y a deux sources. Tout simplement, comme déjà dans la Genèse, il y a deux sources, puisqu'il y a deux récits de la Genèse. Et vous voyez, c'est très bien de voir ces deux sources. Je n'ai rien contre, c'est même très important, ça s'impose aujourd'hui, c'est admis par tout le monde. Donc il y a deux sources. Mais comprenez bien, pourquoi le Saint-Esprit se sert de deux sources? C'est là la question qu'on doit se poser au point de vue théologique. La constatation qu'il y a deux sources, c'est très bien, mais ça n'avance à rien. Ce qui est important, c'est de se dire pourquoi le Saint-Esprit se sert de deux sources. Parce que ce n'est pas le hasard. La parole de Dieu ne peut pas être considérée comme livrée au hasard. Donc ce n'est pas une compilation. Pour les choses humaines, ça peut être une compilation, mais pas pour les choses divines. Si Dieu se sert de deux sources, c'est que Dieu veut, par les deux sources, nous faire comprendre quelque chose que nous ne comprendrions pas autrement. Et ça, c'est très très net avec les deux récits de la création. Alors, ce qu'il faudra, c'est essayer de saisir ici le, vous voyez, le chassé croisé de ces deux sources pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par là. Quelle est la signification profonde de l'emploi, de l'usage de ces deux sources. Ce n'est pas pour le bon plaisir qu'il y a deux sources. Donc, vous voyez bien comment Dieu pousse Moïse à quitter l'Égypte, à retourner vers l'Égypte. Or, au cours de route, au campement de nuit, Yahvé rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Sipora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et toucha les pieds de Moïse et dit « Tu es pour moi un époux de sang. » Yahvé le laissa. Elle avait dit alors « Époux de sang » à cause des circoncisions. Passage mystérieux, très important, au point de vue profond, au point de vue de la signification de l'alliance qui se réalisera ensuite. Vous voyez comment l'alliance qui avait commencé avec Abraham, avec le signe de la circoncision, reprend ou continue. Et comment elle reconnaît « Tu es pour moi un époux de sang. » On comprend très bien avec le mystère de la croix comment l'époux est un époux de sang et qui nous entraîne toujours vers ce mystère. Et l'Ancien Testament annonce ça par le sacrement de la circoncision, qui est un sacrement, un signe demandé par Dieu pour montrer la dépendance à l'égard de Dieu. Yahvé dit à Aaron, « Va au-devant de Moïse, dans le désert. » Il alla, il rencontra à la montagne de Dieu, il le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse indiqua à Aaron toutes les paroles pour lesquels l'avait envoyé Yahvé, ainsi que tous les signes qu'il lui avait commandé de faire. Moïse et Aaron allèrent réunir tous les anciens des fils d'Israël. Aaron dit toutes les paroles qu'avait dites Yahvé à Moïse. il fit des signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Et quand ils apprirent que Yahvé avait visité les fils d'Israël et qu'il avait vu leur misère, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc l'adoration, comme remerciement. Et là, on voit comment Moïse, avec Aaron, entre dans l'ordre de l'exécution, si vous voulez, pour réaliser ce que Dieu avait demandé. Alors, ça, c'est le côté positif de la mission de Moïse. Il rencontre son peuple et le rencontre vraiment en lui donnant tout ce que... C'est vraiment Moïse qui porte cette responsabilité, qui la porte parce qu'il est chargé de sauver le peuple d'Israël et de le sauver du joug du Pharaon. À ce qui va être beaucoup plus difficile, c'est sa médiation auprès du Pharaon. La médiation de Moïse et d'Aaron auprès du peuple d'Israël apparaît comme immédiatement efficace. Tandis que la médiation de Moïse et d'Aaron auprès du Pharaon n'apparaît pas du tout comme efficace au point de départ. Elle est rude. Et c'est beau de voir le double jeu de cette médiation. Médiation auprès du peuple d'Israël, médiation auprès du Pharaon. Ensuite, Moïse et Aaron vinrent dire à Pharaon, « Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël, renvoie mon peuple pour qu'il me fête au désert. » Pharaon dit, « Qui est Yahvé pour que j'écoute sa voix ?» En renvoyant Israël. Je ne connais pas ce Yahvé et je ne renverrai pas non plus Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Puissions-nous aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par le glaive. Alors toujours cette même affirmation, il est envoyé, Moïse est envoyé par Dieu pour conduire le peuple d'Israël à 3 jours de marche dans le désert, pour adorer. Vous voyez que c'est un qui me semble très important, la rééducation du peuple d'Israël. Et la rééducation du peuple d'Israël se fait par l'adoration. Dieu veut que son peuple suive Moïse et Aaron et que son peuple recommence à adorer. Il a oublié Dieu. Et s'il a oublié Dieu, c'est qu'il a oublié d'adorer. Et donc, il faut lui redonner le sens de l'adoration. C'est la première chose qui est à faire. C'est de redonner ce sens de l'adoration. Alors, nous verrons les signes successifs. Il faut les voir ensemble, ces signes, pour voir comment on aboutit à la Pâque. Je demanderai aux novices de rester ici quelques minutes après. C'est pour ça que je termine un peu avant.